1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission Le Grand Tout. On est ensemble sur Canal B pendant 1h10, comme tous les jours, du lundi au vendredi, 16h30, 17h40, des nouveautés musicales, des infos culture, des infos concerts, des découvertes Ferrarock aujourd'hui. Et comme lundi d'ailleurs, on écoutera à nouveau des extraits des albums de Pierre Gisèle ou de La Flemme. Pour les infos concerts, vous irez peut-être à la réouverture de The Roof, Maison de l'Escalade et Origine. Bistro, bar, micro, brasserie sur le site de l'ancien Hôtel Dieu. Ce sera du 20 au 22 juin que se proposeront quelques célébrations et réjouissances. Et puis vous irez peut-être aussi ce vendredi du côté des Ateliers du Vent pour une double release party proposée par la station service. On y retrouvera du beau monde, principalement Olivier Mélano, John Greaves et Régis Boulard pour les projets Nord, Mélano et Boulard. Et puis Glory, ça c'est avec John Greaves. Avant ça, vous aurez entendu quelques suggestions de projection avec Un Fauteuil pour deux, saison 3, épisode 6, l'ultime avec Eric Gouzanet et Antonin Moreau du cinéma Arvor. Et puis pour débuter, deux nouveautés brûlantes, Patchy Man, c'est sorti le 23 mai dernier, un nouvel album pour le musicien portoricain basé à Los Angeles. C'est Patchy Garcia qui a une époque de sa vie ne jurait que par Nirvana et quelques groupes de hardcore, et puis il s'est mis à découvrir des vieux disques de dub jamaïcain, de Scientist, de King Tubby, et il a appris à adorer ces ambiances reggae pleines d'effets spéciaux, très spéciaux. Vous en aurez un nouvel exemple sur un extrait de cet album Another Place. Voici pour commencer Le Grand Tout aujourd'hui ce morceau Take Me to a Dance. Bonne émission.
Thank you.
Mitchells, le producteur groove, hip-hop, funk et encore, j'en passe parce qu'il va bien au-delà de temps en temps, eh bien c'était El Mitchells Affair à l'instant avec Clairo à la voix sur ce titre Anticipate. Ça annonce justement un album qui sortira alors là dans quelques temps, hein, puisqu'il sera disponible début septembre 2025, cet album 24 Hour Sports, un album de groove soyeux, classieux en diable évidemment, avec de nombreux invités. On peut citer par exemple la personne de Norah Jones présente sur cet album. Il faut dire qu'il avait produit des morceaux pour la chanteuse, donc voilà, elle lui renvoie l'ascenseur. Peut-être on retrouvera aussi un morceau où le saxophone de feu Rachan Roland Kirk sera aussi à entendre. On retrouvera un morceau avec Dave Guy de The Roots, en tout cas de très très belles choses, des choses un peu portugaises, brésiliennes plutôt, avec Roger, un album à attendre de très près. Là on était vraiment dans la douceur avec ce titre Anticipate, El Mitchells Affair featuring Clairo, à suivre à Fauteuil pour deux.
Stan, pardon de t'avoir forcé à aller voir tous ces films indépendants.
Oh, ça fait rien Wendy, je te pardonne.
J'oublie trop souvent que même si quelques films indépendants sont géniaux, la plupart sont très chiants.
Le cinéma de nos jours, c'est plus du tout ce que c'était. Rien que des suites et des remakes, un paquet de navets.
Cinéma ! Cinéma !
Oui, je sors,
je sors, je suis, je suis cinéma !
Cinéma !
Au cas où vous n'auriez pas bien compris Monsieur Paul Vord à l'instant, on va parler de cinéma hein, dans Le Grand Tout maintenant. Et on va parler avec Antonin Moreau et Éric Gouzanet du cinéma Larvor. Et bien dans cette chronique Un Fauteuil pour deux, ça va être la dernière en fait hein, à tout jamais, à moins que je la poursuive d'une autre manière à la saison prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas avec vous deux, l'un plutôt à l'animation et l'autre plus à la direction du cinéma Arvor, eh bien vous allez jouer vous un jeu de chaise musicale peut-être, ou alors une chaise va disparaître, il faudra savoir où elle s'en va.
J'en ai éjecté hein. le fauteuil est toujours là et comme dit Antonin, il a éjecté
le calife à la place du calife.
Bravo, bravo.
On le connaît mal, Antonin.
Les dents qui rayent le parquet.
Si vous êtes des fervents spectateurs de cinéma et puis que vous connaissez bien le monde du cinéma à Rennes et des exploitants de cinéma indépendant, il y en a plus beaucoup à Rennes de cinéma indépendant, eh bien vous savez peut-être qu'il y a un changement qui va s'opérer bientôt. Alors je ne sais pas si tu veux le dévoiler maintenant, Eric, pour ceux qui ne le sauraient pas, ou on attend la fin de la discussion tout à l'heure.
On peut en parler toute l'émission. Non. Écoutez, à la fin, oui, on jugera deux mots, ou lorsque je présenterai aussi cette semaine.
Voilà, il y aura une semaine
du 16 au 19 prochain. Voilà.
Mais en tout cas, vous allez parler tous deux de films récents ou plus anciens, avec des avant-premières, Voyage au bord de la guerre, c'est toi qui en parleras dans un instant, Eric, un nouveau film de Antonin Pérez-Jacquot, dont vous avez vu peut-être La loi de la jungle, La fille du 14 juillet, d'autres encore, non c'est...
Ah si, non, il y en a un autre, effectivement, qui était moins réussi quand même, mais qui était un film à plus gros budget, oui.
C'est toi, vrai. Eric, qui parle de cet avant-première-là, mais tu nous parleras aussi de Personne n'y comprend rien, de Yannick Kerguat, en sa présence, on évoquera aussi un film monumental et musical avec le groupe de David Byrne et Talking Heads pour sans doute ce qui est la meilleure captation d'un live de tous les temps, sans doute un film de Jonathan Demme dont vous avez vu peut-être des films un peu plus horrifiques que celui-là. Et puis vous aurez aussi l'occasion de tout savoir, en tout cas d'avoir quelques éléments sur un film surprise. Mais bon, ça sera le 19 juin. Et puis Antonin, toi, tu nous parleras de Sauf qui peut d'Alex Poukine, de Life of Chuck de Flanagan, et puis d'un film que peut-être vous avez déjà vu, qui fait très très peur, et qui est en noir et blanc, et qui n'a pas de parole, de David Lynch, des Razorhead. Il y aura des places à gagner d'ailleurs sur canalb.fr. Voilà un programme assez chargé.
On en a pour deux heures là.
Oui, je pense, c'est une émission spéciale, un fauteuil pour deux, dans cette dernière de l'univers peut-être, avec ce voyage au bord de la guerre. Ça c'est une avant première que vous pourrez voir à l'Arvor le 10 juin,
le mardi 10 en présence donc d'Antonin Pérez-Jacquot. Donc comme tu le citais, c'est plutôt des fictions qui l'ont animé pour l'instant, et là il se prête au documentaire. D'ailleurs bah, il se risque quand même dans un pays en guerre, ses origines lointaines qui l'ont amené là-bas. Donc l'été 2022, il part avec sa caméra, un preneur de son, hein, qui est également réfugié ukrainien, et donc sillonne les horreurs. Hein, puisque c'est un pays ravagé, avec sa caméra, et donc il rencontre et beaucoup de sensibilité. On est, bien sûr, oui, la guerre est omniprésente, mais il y a aussi un peu de recul, un peu de sensibilité, et puis à l'écoute aussi des Ukrainiens et Ukrainiennes qui subissent les assauts du pays conquérant, hein, puisqu'on peut parler d'une conquête de Monsieur Poutine.
Donc on est loin des films burlesques, Anna.
Oui, quand même. Mais il y a toujours un peu son regard aussi décalé. Voilà, donc Antonin sera là et je suis ravi de l'accueillir dans mes derniers événements.
Tu seras là de quelle manière?
C'est vrai que c'est tellement rare comme prénom que moi ça me trouble.
Antonin Peredjako. Eh bien vous pourrez voyager, hein, et pas trop près quand même.
Il est né donc à Brest et qui a des origines visiblement ukrainiennes.
Vous aurez quelques places à gagner, hein, pour cette avant-première là sur canalb.fr. On écoute un extrait d'un film plus ancien de Antonin Peredjako. Pas tout à fait dans la même tonalité, évidemment, que ce que tu nous évoquais à l'instant, Eric.
Marc Châtaigne, enfin ce qu'il en reste. Encore un que la jungle a eu. Bon, vous venez, vous faites quoi, là?
Non.
Quoi, non?
Marc Châtaigne n'est pas mort, il fait semblant. Regardez, regardez les traces de pas.
Et les restes de corps humains, là. Et quel mot sur l'imagination, hein? Vous allez trop au cinéma.
Des gens qui font semblant d'être morts pour échapper au fisc, que j'en connais un paquet. Et je vais jamais au cinéma. J'écoute Le Masque et la Plume, mais ça me suffit largement.
Dans cette chronique Un fauteuil pour deux aujourd'hui, une chronologie un petit peu bousculée. On va se balader dans le calendrier un peu n'importe comment. Et alors, comme on veut d'abord. Et on parlera, et tu nous parleleras, Antonin. Alors Antonin Moreau, hein, cette fois pas le même que celui que tu évoquais, Eric, tout à l'heure. Sauf qui peut, tu vas nous parler de Sauf qui peut de Alex Poukine, qui semble-t-il est une de tes grosses
coup de cœur
pour toi.
Coup de cœur. Eric, il se moque parce que genre j'étais dans l'enthousiasme.
Non,
c'est un film que j'ai c'est tout frais parce que je l'ai découvert hier, parce qu'on a fait une avant-première sèche, hein, sans la réalisatrice qui n'était pas là, mais à l'Arvor, donc je n'ai vu qu'hier soir, et le film sort demain mercredi. Et c'est un petit coup de cœur. C'est un documentaire en fait sur des dispositifs très particuliers qui ont lieu dans les milieux soignants, qui sont des sortes de jeux de rôle où des acteurs sont embauchés par l'institution médicale pour faire s'exercer les différents soignants à par exemple l'annonce de mauvaises nouvelles, de cancers, de maladies graves, des situations extrêmes, avec des accompagnants de soignés qui sont un petit peu trop oppressants avec le corps médical ou qui sont dans le déni, enfin que des situations un petit peu extrêmes pour un petit peu tester ce que les médecins n'apprennent pas forcément dans leur cursus, c'est-à-dire de quitter un petit peu le registre un petit peu froid médical le côté technique, hein, du corps humain, pour aller dans un angle un peu plus humain. Donc c'est que des situations comme ça. Aussi en termes de conditions de travail, on sait que c'est très très facile en ce moment, avec l'hôpital public pète le feu, mais voilà, donc forcément il y a aussi des trucs là via des théâtres forums où les personnels soignants essayent de d'évacuer ou de conceptualiser, de revivre vraiment, ou de conceptualiser vraiment toutes les situations un petit peu délicates qui peuvent les mener vers les burn-out qui sont très fréquents dans ce milieu-là. Alors c'est un film que moi j'ai trouvé fascinant. Ça m'a paru assez imparable en fait hier, en me disant que c'est vraiment évidemment assez dur vu les problématiques, que c'est hyper émouvant dans toutes les scènes, les situations qui sont mises en scène, que c'est hyper militant effectivement, que le film il coule tout seul et on vit vraiment à 100% dedans. Et surtout en fait, via ce dispositif là, ce qui est assez fascinant, c'est que ça rejoue quelque chose qui est très cinématographique, c'est que toute l'implication émotionnelle qu'on peut avoir dedans, elle est vraiment décuplée presque, parce que au final toutes les situations qu'on voit, elles sont fausses. Donc c'est un paradoxe, hein, c'est-à-dire que vraiment toutes les situations sont complètement fausses, elles sont jouées, mais que finalement le principe de ce dispositif-là, même dans la vraie vie, c'est justement de vivre à fond quelque chose, mais avec cette légère distance où on sait que c'est faux, mais de quand même à avoir une sorte d'implication émotionnelle, ce qui est un peu aussi le cinéma ou le théâtre qui peut faire ça. Et au final, ça fait vraiment une sorte de film, d'objet cinématographique à dispositif, hein, du coup, quand même, mais vraiment hyper fort et qui donne sûrement un portrait assez juste de toutes les problématiques des soignants soignés aujourd'hui en hôpital.
Donc de la fiction qui accompagne le réel pour rendre le réel plus vivable.
Carrément, tout à fait.
C'est très très beau. Sauf qu'il peut donc d'Alex Poukine, ça sort ce mercredi 4 juin. On va entendre un peu de musique, tiens, dans un instant, mais avant ça, on va entendre parler d'un petit président qui est bien allé chercher de l'argent là où il n'a pas le droit d'aller le chercher. Il s'appelle Nicolas Sarkozy, il me semble, mais peut-être que je ne parle pas de la bonne personne, puisque je n'ai pas vu le film de Yannick Kerouac.
Et on ne sait pas vraiment s'il est coupable ou pas.
On ne sait pas, mais personne n'y comprend rien, en tout cas. Un film que tu nous présentes, Eric.
Bah oui, ça fait partie des trois rendez-vous, je veux proposer au cinéma de l'Arvor, puisque je vais arrêter mes fonctions.
C'était ça, l'information.
Le 30 juin. Et je suis Antonin, ici présent, va me succéder, aucun problème, ça va continuer, toujours avec beaucoup de rendez-vous, sur le patrimoine, le cinéma de répertoire, il connaît quand même, maintenant il va falloir qu'il s'attache au cinéma d'aujourd'hui, du présent, il a l'air bien chaud, on en témoigne son commentaire sur le film de hier soir, sauf qu'il peut, je n'ai pas de soucis, la programmation va continuer, et c'est tant mieux, et c'est aussi, je suis très content aussi pour Antonin, qui œuvre quand même pour ce cinéma depuis de nombreuses années.
Mais ça te fait un sacré changement, quand même, Eric, de te dire ça y est, je irai au cinéma seulement en tant que spectateur désormais.
C'est bien. Antonin va me donner plein d'exos. On est bien d'accord. Donc, pour moi, mes enfants, ma famille, je connais sa générosité.
Mais avant, quand
plus
même.
Plus sérieusement, trois rendez-vous. Donc, un rendez-vous d'hier avec le lendemain, ce documentaire sur les Talking Heads. Puis j'ai voulu aussi avoir un clin d'œil sur le documentaire militant qui bouscule un peu avec ce film de Yannick Kerouac. J'ai hésité avec Gilles Perret, qui a aussi marqué le cinéma de l'Arvor par ses films. Et j'ai pris Yannick parce que Yannick, en fait, on était étudiant à Rennes 2 en sociologie dans le début des années 80. Donc on se connaît, il y a une amitié, il a fait trois films. Il est monteur au départ, des études de sociologie, vous voyez, ça mène à tout, au montage, et il a gagné d'ailleurs un César pour Harry, un ami qui vous dit bien, de Dominique Moll, et puis ensuite à la réalisation avec les nouveaux chiens de garde, qui avait aussi, qui était en duo d'ailleurs, ils étaient deux, et comme ici aussi, il s'est associé avec des journalistes de Mediapart pour parler d'un mafieux. Osons de le dire. Le film est sorti déjà en début d'année dans un autre cinéma de la ville de Rennes que je citerai, le TNB. Coucou le TNB. Et c'est un plaisir de le recevoir et puis d'inviter aussi tous ces militants associatifs qui viennent palabrer, discuter à travers leurs films, leurs choix ou mes choix. Mais c'était un clin d'œil à ce document militant un peu gauchisant.
On va faire une petite pause musicale comme
avec
ça nous permettra.
Carla Bruni.
C'est ça, pour évoquer le personnage principal de Personne n'y comprend rien. Non, on va faire d'une pierre deux coups. Tiens, c'est vous deux qui allez nous parler de la séance monumentale du mardi 17 juin, parce que apparemment tu prêtes ce créneau-là à Eric. Donc on écoute un peu de musique.
C'était le deal pour qu'il soit.
D'accord. c'est un bon équilibre.
J'ai vendu mon âme au diable.
On écoute un peu de musique et on reparle de cinéma avec ce film de Jonathan Demme.
What's the matter with him?
Vous avez entendu, sans doute vous l'avez reconnu, la voix de David Byrne, le chanteur des Talking Heads sur ce monument qui est Stop Making Sense et qui sera justement projeté le 17 juin à l'Arbor dans cette case gigantesque, bigger than life, monumentale. Normalement, c'est toi, Antonin, qui programme.
Ouais, c'est moi, mais moi, grâce à Eric. Hein, c'est pour ça qu'effectivement, c'est aussi pour évidemment le rendre grâce aussi. Bah, de toute façon, au travail d'Eric, mais qui concerne pas ça, mais qui moi, à titre personnel, forcément, m'a laissé le champ de la création de différents rendez-vous au sein de l'Arvor, mais qui outre ça, évidemment, a mené une politique de programmation quand même assez forte et assez exemplaire, je trouve, dans l'Arvor. Enfin, en tout cas, qui a fait un peu le succès qu'on a pu connaître. Pas trop en ce moment, mais voilà, en général, voilà.
Les événements, les animations, on peut quand même être assez satisfait, mais c'est vrai que en arrivant, Antonin, je connaissais l'émission, le cinéma est mort, comment on sollicite pour ce premier rendez-vous le film du dimanche soir, banco, on y va. Antonin a beaucoup d'appétit, comme je lui dis, donc du film du dimanche soir, d'arriver à Monumental, à rembobiner. Donc voilà, c'est des rendez-vous inscrits maintenant, je pense, chez les cinéphiles rennais ou rennaises, ou pas d'ailleurs, et on voit là que c'est fréquenté, et c'est vrai que c'est une réussite et j'en suis content. Je savais aussi que je pouvais compter sur ces qualités d'animateur et puis de cinéphile. Ouais.
Donc on va au-delà de cette case, grosse case dans le programme des films projetés à l'Arvor, venir sur ce film-là, un film que moi je n'ai pas vu personnellement et je veux le voir maintenant que j'en ai vu juste quelques extraits dans la bande-annonce, parce que ça commence où on voit un David Byrne qui arrive avec un grand costume, il a un radiocassette, un ghetto blaster, un boombox, et puis il appuie sur le bouton.
Sur play.
Et puis pendant 2 heures presque, il va se passer des choses qui vont grossir. C'est presque les Marx Brothers en fait, qui font un concert. C'est complètement dingue.
Écoute, oui, c'est tout d'abord, le film est sorti en 85. Jonathan Demme, donc c'est Le Silence des Agneaux. Il devait aimer le groupe et puis il a fait au-delà d'une captation, parce qu'il y a vraiment une mise en scène, comme tu disais, il arrive tout seul, il est habillé, j'ai lu tout à l'heure, pas plus tard, qu'il y avait une référence au théâtre japonais Kabuki, voilà, donc on est pas dans le mime, mais bon, c'est très gestuel, et donc lui introduit le concert, et puis ses musiciens arrivent au fil du temps avec toute la composition du groupe, qui était donc de 4 membres au départ. Les Talking Heads, c'est 77, on est en période aussi punk, mais il n'était pas punk, mais je pense que c'est un peu la world music avant l'heure. Ils introduisent des percus, beaucoup, donc on pense aussi à Fela Kuti, on pense aussi à Brian Eno, c'était toutes ces influences africaines.
Ils ont fait des albums ensemble, David Byrne et
ils ont fait des albums ensemble, tout à fait, et donc moi c'est un groupe qui m'a marqué, j'ai pratiquement tous les albums de cette époque, et puis notamment le fameux Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est à voir absolument, en plus c'est l'occasion, puisque ça, c'est aussi un hasard, puisque le film ressort en salle, donc je vous propose cette projection la veille de sa sortie avec Monumental, et c'est vrai qu'il faut le voir sur grand écran dans la salle une. Ça va être un plaisir pour les cinéphiles, un plaisir pour les amateurs de musique que je suis aussi, donc c'est aussi associé. Voilà, j'ai parlé du documentaire, là c'est un film sur la musique, et c'est aussi une de mes passions que j'ai envie de transmettre dans ces derniers jours.
On continue
de ma carrière.
Ah oui, de ta carrière professionnelle.
Oui, on entend bien.
Voilà.
On écoute encore un peu de ce terrible Slippery People dans la version de ce live.
Et j'ai vu le film à sa sortie.
Ah voilà. Tu l'as vu et tu t'es habillé avec un grand costume.
Non, on était peu nombreux. C'était dans le cadre du Festival à Rock à Saint-Brieuc, qui est donc sa prochaine édition, c'est le week-end prochain. À l'époque, c'était en octobre. Et donc, c'était dans la grande salle de la Maison de la Culture. On était peu nombreux à me souvenir. Mais bon, c'était un gros moment de cinéphilie.
Entendiez les Talking Heads, ne ratez pas cette séance monumentale de Stop Making Sense de Jonathan Demme. C'est le mardi 17 juin dans le cadre de fin de carrière en tant que directeur de cinéma pour Eric Gouzanet à l'Arvor. Mais bon, on te retrouvera forcément en tant que spectateur ici ou là dans les cinémas rennais, c'est sûr, c'est sûr. Et peut-être même, je ne sais pas, on lui proposera une émission concurrente au Cinéma est mort.
Tiens donc,
c'est ouais, pas. Hein.
Mais carrément. Oh
bon, j'en ai pas cette ambition.
On poursuit cette chronique un peu plus longue aujourd'hui. Hein. C'est une chronique monumentale aussi, un fauteuil pour deux, avec Life of Chuck de Mike Flanagan, avant-première ce vendredi 6 juin. Et puis il sort le mercredi 11. Vous aurez quelques places à gagner pour un film qui. Oui, c'est pas Chucky, c'est Chuck.
Ouais, il y a pas du tout Chucky. Quand même, hein. Mais après, bon, ce qui pourrait en dire en erreur, c'est que c'est une adaptation de Stephen King. Donc on se dit, tiens, voilà un film d'horreur et tout ça. Film dont on peut pas non plus trop dire, ce qui repose un peu pas mal sur la surprise, et je pense que ceux qui s'occupent de vendre le film sont bien emmerdés, parce que c'est un vrai voyage où on sait pas trop où ça nous amène vraiment de film en film. Il est raconté à l'envers en trois actes, bref, je m'arrêterai là, mais c'est un film que moi je trouve très très réussi, qui a un peu l'étoffe d'une sorte de classique américain instantané, un petit peu comme des films comme Les Évadés ou Truman Show. On est dans une sorte, enfin c'est un peu de ces films là que j'ai envie de les rapprocher, ou même de Eternal Sunshine of a Spotless Mind, des films qui sont assez profondément émouvants, qui ont une sorte de rapport un petit peu on va dire global sur la vie, les souvenirs, la vie qui s'éteint mais la beauté des vies, enfin bon voilà, quelque chose d'assez beau qu'on va retrouver aussi, pour ça je pouvais aussi citer les Évadés, ce qui est aussi une adaptation de Stephen King, parce que Stephen King effectivement il est évidemment réputé pour sa littérature horrifique, qui a pu donner aussi des classiques comme Shining de Kubrick. Et Mike Flanagan, lui, est un spécialiste en fait de Stephen King. Il a adapté plusieurs fois Stephen King. Un des derniers films à être sorti en salle, parce que maintenant il œuvre surtout pour Netflix, c'était la suite de Shining, mais le bouquin de King, c'était Dr. Sleep. Donc il est plutôt adepte des adaptations Stephen King, mais là c'est l'angle de Stephen King qui n'est pas vraiment horrifique, qui est fantastique. On est dans le genre du fantastique, mais pas vraiment horrifique. Et bon, voilà, j'encourage vraiment les gens à aller voir ça, parce que c'est, je pense, un film qui aura probablement dans les années à venir la stature de petits classiques instantanés qui n'ont pas forcément toujours très bien marché au moment de leur sortie, du style les Évadés ou Eternal Sunshine, parce que je pense que oui, ça va vraiment beaucoup marquer les gens qui vont le voir.
Vous irez voir donc en avant-première ou lors de sa sortie Life of Chuck de Mike Flanagan. Et on repasse à Eric cette fois-ci pour un film dont tu ne vas pas beaucoup pouvoir nous parler, parce qu'il reste un peu mystère, ce film que tu vas vouloir
projeter. C'est mon troisième rendez-vous. Donc après le documentaire, le film du répertoire, maintenant le film de demain. Chaque année, on reçoit pour une saison, l'association Clair-Obscur, un rendez-vous que j'avais initié d'ailleurs avec mon collègue Hussein Mehdi lorsque j'y étais. À l'époque, c'était au Colombier, donc c'était pas forcément la cible spectateur, mais bon, je pense qu'ils ont retrouvé leur place au sein de notre programmation, et j'espère que ça va continuer. Clair-Obscur propose à l'issue du festival de Cannes une séance, une avant-première, et ils m'ont confié donc cette projection, cette programmation, et pour l'instant c'est en cours. Donc j'avais un film sous le coude, mais ça n'a pas pu se faire, Sirat, que je vous invite à vous précipiter le 3 septembre lorsqu'il va sortir, et là peut-être l'autre prix du jury, puisqu'il a partagé ce prix avec un agent secret de Kléber Bentosa, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, j'espère que j'aurai la réponse dans l'après-midi. Et puis moi je voulais aussi remercier Yann, son émission, ses émissions, et ceci surtout Canal B. Ma carrière se termine, ça fait plus de 30 ans, et 30 ans aussi d'accompagnement avec Canal B. J'ai connu les trois sites, j'ai connu Bru, je me souviens très bien d'un dimanche soir aller faire la promo de travelling dans les locaux à Bru, et puis bien sûr le Gast avec Yvan, un petit aussi clin d'œil, que j'ai eu surveillant, élève au lycée lorsque j'étais pion au lycée de France.
Yvan, ancien directeur de Canal B.
Yvan Penverne, donc malheureusement disparu. Donc, et puis ici, où c'est vraiment, je ne sais pas, je vous ai suivi aussi. Et donc je vous trouve entre Bru, le Gast et ici, l'outil est performant, intéressant. Le cinéma est mort, continue, les podcasts, Yann, t'es toujours là, mais bravo à Canal B. Vive la radio associative de musique et la radio curieuse. Merci à vous.
Et tu parlais juste à l'instant, merci à toi Eric aussi, bien sûr, et merci au cinéma Arvor. On sent qu'il y a des rapports très, très serrés avec l'Arvor depuis longtemps. Tu parlais de films de répertoire, de documentaires, de nouveautés à essai. Ça va rester ça, l'ADN de l'Arvor, de toute façon, avec.
Il n'y aura pas de révolution de toute façon. Il y aura d'ailleurs même pas nécessairement plus de répertoire, même si c'est mon dada. Il y a déjà assez de répertoire à l'Arvor.
Merci Antonin de l'entendre.
Mais
de bons répertoires.
Mais non, évidemment qu'il y en aura. Il y en aura pas. Enfin, je vais continuer un petit peu la dynamique qui a été initiée par Eric. De justement, de toute façon, nous, notre credo, c'est d'être dans la diversité. Donc il ne s'agit pas de faire truster l'Arvor par un seul type de cinéma, mais au contraire de proposer un échantillon de tous les cinémas possibles. Et ça d'ailleurs concerne aussi des films que j'aime pas spécialement et tout ça, mais c'est vraiment l'idée d'être dans la diversité, mais toujours dans une ligne auteur engagé, quelque chose qui corresponde à notre ADN, quoi. Puis je vais pas mettre des films de Mel Gibson tout le temps, c'est ça que tu veux me faire dire, non.
Antonin donc va prendre la direction de la programmation, et c'est bien, mais il va aussi être associé par ce groupe que j'ai pu initier aussi, Antonin sur le répertoire, mais on avait Servane Joucla donc sur le jeune public, et Pierre Girard sur les scolaires, l'éducation à l'image. Donc c'est un pôle aussi dynamique, attractif, et qui va continuer aussi pour perdurer pendant de nombreuses années.
Enfin, si vous venez, si vous êtes là au cinéma, quoi, évidemment, il faut venir. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine.
vous aurez peut-être reconnu cette chanson que vous avez entendue aussi dans un film de 1977, un film d'un réalisateur disparu il y a quelques semaines et qui avait pas beaucoup de vaisseaux spatiaux. Quoique, est-ce qu'on peut transformer un poulet en vaisseau spatial? Peut-être qu'il aurait pu le faire. Tu vas nous parler pour terminer un fauteuil pour deux aujourd'hui, Antonin, de se rembobiner autour eh bien, d'un film de David Lynch.
Oui. Bah, je suis très content de pouvoir le proposer. Effectivement, c'est une demande qu'on a eue beaucoup depuis la disparition de David Lynch, de repasser ses films. Après, d'autres s'en sont occupés, donc on n'en a pas fait spécialement, si ce n'est une histoire vraie. Mais je suis très content de passer à Eraserhead, qui n'est pas vraiment celui qui repasse le plus quand on pense à Lynch. Évidemment, il va y avoir Blue Velvet ou Lost Highway, et évidemment Mulholland Drive, mais Eraserhead passe très peu. Aussi, peut-être parce que c'est un film plus immédiatement noir de Lynch, qui peut avoir un côté, même si c'est le cinéaste du rêve et du cauchemar, il y a toujours un côté un petit peu lumineux, côté lumineux qui dans Eraserhead est un petit peu plus lointain, tout au fond du plan. Hein. Et je suis d'autant plus content que j'ai trouvé l'occasion idéale de le faire pendant la fête des pères. Parce que c'est un film que Lynch fait très jeune, alors qu'il est juste néo-papa, et qu'il est bosse dans une imprimerie, qu'il sort de ses études de beaux-arts, qu'il expose un petit peu, mais qu'il n'en vit pas. Il est avec sa femme, avec son bébé Jennifer, et sur une période d'une année, ça fait partie de tout ce moment où quelques petits génies dans leur coin, que ce soit Sam Raimi, que ce soit Peter Jackson un peu plus tard évidemment, font des films, bricolent des films dans leur coin. Là, ça donne pour lui Eraserhead, et il y injecte toutes les angoisses qu'il a par rapport à sa paternité dans une sorte de vision cauchemardesque. Vous allez voir que de bébé il n'y a pas, enfin en tout cas pas dans la forme auquel on peut s'y attendre. Et moi, c'est un film que je n'ai vu que deux fois, à chaque fois au cinéma, et à chaque fois ça a été des expériences époustouflantes. C'est effectivement un film qui est cauchemardesque, mais pas non plus j'ai envie de dire insupportable à regarder. C'est pas un film genre Salaud, Les 120 jours de Sodome ou Freds ou des films qui sont vraiment très très durs, mais c'est un film qui effectivement a la logique plus des cauchemars que de celle du rêve, qui ne cherche pas quelque chose de très confortable, mais qui reste quand même aussi confortable qu'un rêve. On y est, pousse sa propre logique, et il y a une expérience sensorielle qui est absolument démentielle. Et évidemment, là, moi je n'ai pas encore vu cette copie là, mais le film a été restauré, donc du coup on peut s'attendre aussi à avoir une copie plutôt très, très belle, et donc dans les conditions optimales de la revoir, ça va être super de voir ça le 15 juin à 18h.
Vous irez voir ou revoir avec votre papa ou pas le film Eraserhead de David Lynch, donc le 15 juin à l'Arvor. Vous retrouverez bien sûr toute la programmation du cinéma sur le site cinéma-arvor.fr. Vous avez quelques places de cinéma gagnées pour quelques-unes des projections des films qu'on a évoqués. Merci à vous, évidemment, pour vos participations. C'était la troisième saison de Un fauteuil pour deux seulement. On aurait pu commencer il y a plus longtemps. Bon, on retrouvera des rendez-vous cinéma hors Le cinéma est mort sur Canal B l'année prochaine aussi. Et puis, si vous aimez jouer avec le cinéma, eh bien, allez du côté du restaurant du TNB jeudi soir, parce que vous y retrouverez un blind test sadique, forcément sadique, proposé par les deux moitiés du cinéma est mort, Étienne et Antonin. Pas de thématique particulière cette fois-ci.
Par contre, on s'est donné, on s'est rappelé il y a très peu de temps qu'on avait un blind test à faire, donc ça a été un peu la panique à bord, et puis on s'est remis des bâtons dans les roues. On va faire, parce qu'on nous reproche souvent d'être des gros mal boomers et de passer que des films de mecs, et là on va faire un blind test paritaire. Attention, ça va avoir réalisateur, réalisatrice 50-50, et les thématiques, ça va être le cul. Donc amenez pas vos enfants pour le coup,
mais vos parents si vous voulez. Bon, merci beaucoup Eric.
Merci
pour
Ayane,
cette belle carrière au service du cinéma.
Merci
Antonin, et puis longue vie à ce cinéma Arvor que tu vas donc diriger bientôt,
que je vais foutre en l'air.
Voilà. Merci à vous. On termine avec la fin de cette belle chanson, La Dame dans le radiateur, écrite par David Lynch et puis reprise quelques années après Eraserhead par les Pixies. Merci à vous. À bientôt.
Merci Yann.
Avant la session info-concert du jour dans l'émission Le Grand Tout, je vous proposerai d'aller faire un tour du côté des Ateliers du Vent ce vendredi pour une double release party des albums de Nord et puis de Glowy. Et puis vous pourrez aussi aller du 20 au 22 juin à la réouverture de The Roof, maison de l'escalade, et aussi Bistro Bar Microbrasserie avec Origine. Mais on commence directement avec la rencontre entre le musicien guitariste rennais Olivier Mélano et puis le musicien batteur rennais Régis Boulard. Ensemble, ils sont Nord pour Mélano et Régis Boulard, RD, donc un ensemble plutôt expérimental, poétique et free rock, tout ça à découvrir en live pour la release partie de l'album, avec pas mal d'invités: Marc-Anthony, Mirabel Gillis, Daniel Pabeuf, Laetitia Chérif ou Mona Soyok du groupe Casse Product, à retrouver au hasard d'un morceau de Nord qu'on écoute maintenant ou de Glow, qu'on écoutera tout à l'heure, le nouveau projet explosif de John Greaves. Et si j'ai du mal à le dire, c'est peut-être parce que c'est du gallois, en tout cas c'est parce que ça s'écrit G-L-O-Y-W. Nord d'abord et puis Glow juste après. We'll be right back.
believe me, he was making love to a ginkgo tree. His skin was rough, his blood was green, as if his father might have been a tree. A tree that looked that day at me. Mother attended planets, we know, the papers all reported so. The son was held for questioning, he wouldn't talk, he'd only say, a tree, my father was a tree. He'd seen a picture as a kid, which thrilled him then as it still did, of Eve and Adam by a planet, and wasn't yet significant, but instead of skins or minerals, green leaves is their genital. A tree, a tree. The green leaves of the tree. The town was so incensed by this display of licentiousness, they formed a mob and stormed the jail and dragged him up the hangman's hill. Torches lit the crowded scene like something full of fever dream. The mob grew silent, they all heard the boy repeat his favorite words. A tree, a tree. My father was a tree. They tore the buttons from his coat. They dropped a noose around his throat. The boy laughed. You can't hang me. My father was the gallows tree. My father was the gallows tree.
C'était le titre My Father Was a Tree par Glow et le projet unissant John Cleaves, Régis Boulard et Olivier Mélano. Et puis, juste auparavant, c'était Olivier Mélano et Régis Boulard en duo sur le titre Two pour leur projet Nord, à retrouver ce vendredi 6 juin du côté des Ateliers du Vent grâce à la station service. Une double release party. Je vous le rappelle, on terminera les infos concerts avec un autre titre dans un instant. Un titre du Rennais Héron Sandré qui sera là tous les soirs dans le cadre de la réouverture de The Roof à Rennes. Rencontre entre une maison de l'escalade et un bistrot bar microbrasserie qui porte lui le nom de Origine. The Roof et Origine vont réouvrir le 20 juin. Trois soirées de célébration avec pas mal de choses à découvrir. Je vous mettrai un lien de l'événement Facebook sur la page du Grand Tout sur canalb.fr. On écoute en tout cas ce titre 3-5 par Héron Sandré. Thank you. Terence André à l'instant dans Le Grand Tout, vous le retrouverez comme l'un des invités de ces trois jours de réouverture et de fête à The Hof Rennes, rue de l'Hôtel Dieu, les 20, 21 et 22 juin. On termine l'émission Le Grand Tout avec Pierre Gisèle pour commencer, une folk pop toute douce ou toute rêveuse sur un album Découverte Ferrarock cette semaine, et puis juste après les Marseillais un peu plus énervés de La Flemme. Toutes les infos sur ces deux disques sur ferrarock.org. On se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures dans Le Grand Tout sur Canal B. Retrouvez playlist et réécoute sur canalb.fr. Ciao.
J'ai jamais aimé l'école. Les autres enfants étaient méchants avec moi parce que j'avais des cheveux bizarres, un nom bizarre, des dents bizarres, des fringues bizarres. À l'époque, j'aimais déjà le velours côtelé, les pantalons trop larges et les jeans déchirés. Et mes parents me trouvaient aussi bizarre, mais ils ont juste décidé de me laisser faire, de m'encourager. De toute façon, même si les enfants n'avaient pas été méchants, je ne serais certainement pas allée leur parler. Mes seules priorités étaient les chiffres, les lettres et écouter Gainsbourg et Armstrong toute la journée. J'étais bonne élève, mais je n'ai jamais compris le principe d'autorité, les règles dans la cour de récré, les garçons qui jouent au foot et les filles à la poupée. Ce qui me faisait tenir était de compter sur mon calendrier les jours pour enfin retrouver. Des enfants, je me suis très vite demandé dans quel monde c'était ok de se lever si tôt le matin et de rentrer chez soi si tard le soir, assis toute la journée face à ce tableau noir, à se faire laver le cerveau avec l'histoire colonialiste et capitaliste, et à mettre toute son énergie à essayer de ressembler à tout le monde et à faire taire la petite voix dans notre tête qui nous dit « mais pourquoi je peux pas juste être moi-même et étudier les vrais sujets qui comptent ?» Tout ça face à un ou une professeur qui a dû oublier que lui ou elle aussi étant enfant n'avait qu'une envie, c'était de retrouver. J'ai grandi et allé savoir pourquoi j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai dû vouloir prendre une revanche sur la vie, ou j'ai peut-être voulu devenir l'adulte que j'aurais rêvé avoir en classe, c'est-à-dire celui ou celle qui soutient les enfants bizarres et qui leur répète que c'est tout à fait normal d'aimer la solitude des vacances. Découverte incroyable, je me rends compte que ce ne sont pas les enfants qui sont réellement méchants, mais en fait les adultes. et que la violence des enfants ne fait que refléter les adultes que nous sommes dans notre société, c'est-à-dire des adultes cupides, jaloux, compétitifs, autoritaires et rabaissants envers celles et ceux qui aiment.
La solitude des vacances.
Adultes qui nous font croire que si on arrive en retard en cours, on va rater sa vie. Des adultes qui nous font croire que si on porte un t-shirt trop court, on va devenir une pute et qui nous font croire que pute est une insulte. Eh bien, ces adultes-là ont tort. Et à tous les enfants bizarres, ne vous inquiétez pas, car vous allez vite réaliser qu'on est hyper nombreuses et nombreux à aimer.